cruzamento da Europa.
Rascrucha Europei.
Stavrodrome des Europis.
Treffpunkt Europa.
The Hub of Europe.
Carrefour de l'Europe. Juliette Rocheval, Guillaume Meunier.
Bonjour et bienvenue au Carrefour de l'Europe. Union européenne, Afrique, l'aide au développement en question bousculée par la crise des réfugiés. L'Union européenne réfléchit à l'avenir de son aide au développement, notamment en direction de l'Afrique. Une aide qui devra intégrer les nouveaux objectifs de développement durable de l'ONU. Elle devra également tenir compte des relations avec les pays ACP, Afrique, Caraïbes, Pacifique, alors que l'accord de Cotonou sera prochainement renégocié. Ces accords de Cotonou adoptés en 2000 régissent les relations entre l'Union européenne et les pays ACP au plan politique, économique et du développement. Revoir la stratégie de l'UE sur l'aide au développement, quels objectifs, quelle efficacité aussi. Carrefour de l'Europe reçoit aujourd'hui le docteur Cherdieille en duplex de Dakar grâce à notre envoyé spécial permanent Guillaume Thibault. Bonjour Cherdieille.
Bonjour.
Vous êtes le directeur exécutif d'Endacacid, le Centre africain pour le commerce, l'intégration et le développement, un centre de ressources et d'expertise. L'eurodéputé Charles Gorens du groupe Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe est en duplex depuis le Parlement européen à Strasbourg avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Damien Elie de l'ECDPM, une organisation qui travaille sur les questions de coopération internationale, et lui en duplex depuis notre studio de Bruxelles. Bonjour.
Bonjour.
Bienvenue à tous. Il y a quelques jours, la Commission européenne a posé les bases de ce qui pourrait être un partenariat renouvelé avec les pays Afrique, Caraïbes, Pacifique après 2020. Alors, ce ne sont que des propositions, mais l'Europe est la plus grande donatrice d'aide au monde, Charles Gorens. Alors, ça compte, hein, ça. Quelles sont les principales réussites de l'aide au développement jusqu'ici, selon vous ?
Eh bien, ce sont des réussites dont on ne parle pas beaucoup, et notamment des interventions dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la promotion de systèmes de santé. On a vu ce que traversent les pays qui ont un système faible en matière de santé. On l'a vu au Libéria, en Guinée, lors de la crise d'Ebola. Nous avons réussi à réduire sensiblement la pauvreté. Il subsiste un très grand problème dans les pays les moins développés, mais aussi dans les pays émergents, parce que la majorité des pauvres vivent dans les pays émergents. Or, l'Union européenne a décidé, et je crois que c'était bien justifié, de mettre fin à l'aide officielle au développement pour les pays émergents, parce que ces pays commencent à générer suffisamment de ressources pour faire face à leurs propres problèmes de pauvreté. Je crois que l'image en 2016 est la suivante. La globalisation a un double effet. D'abord, les différences entre les États ont tendance à s'amenuiser. Par contre, les inégalités à l'intérieur des États même ont tendance à s'accroître. Et tous les pays recensés au monde sont dans cette situation. Donc, tablons sur le multilatéralisme qui, lors de sa récente Assemblée générale, a décidé de mettre en avant les Sustainable Development Goals, les objectifs de développement durable. Tous les pays, de ce point de vue, sont des pays en développement parce que tous doivent faire des efforts en vue de réduire ces inégalités. C'est ça le grand défi. Nous avons des expériences à partager avec les autres, pas nécessairement des leçons à donner, parce que nous avons aussi à balayer devant notre porte.
Cherdieille, si vous faites, vous, le bilan au Sénégal de l'aide au développement, et plus largement sur l'Afrique de l'Ouest, qu'est-ce qui ne fonctionne pas de votre point de vue, et qu'est-ce qui fonctionne ?
Oui, alors c'est une très bonne question. Je crois que faire le bilan de l'aide en général serait un exercice plus ou moins périlleux. Ce qui est constant, c'est que les montants ont été assez significatifs. Ça, il faut je crois le reconnaître. Et que il faut aussi reconnaître le fait que dans tous les pays qui ont réussi à mettre en place les institutions appropriées, qui ont pu avoir les bonnes stratégies et les mécanismes ou les moyens d'utiliser l'aide efficacement, ont aussi réussi à développer ou à faire avancer un certain nombre de secteurs. Cela est incontestable. Ce qui est aussi constant, c'est que l'aide à bien des égards a péché par son inefficacité. Il y a aussi beaucoup de défis générés justement à la fois par l'utilisation de l'aide du point de vue des pays récepteurs, mais également l'aide souvent lorsqu'on pointe du côté de l'émetteur, les pays donateurs d'aide, notamment l'Union européenne, il y a aussi un ensemble de mécanismes qui n'aident pas à la mise en efficacité de l'aide. Donc cela est une problématique assez complexe. On peut voir, certains verraient le verre à moitié plein, d'autres à moitié vide. On va dire que finalement, ce qui est le plus important, c'est de voir comment déjà maximiser le potentiel bénéfique de cette aide, parce qu'il est, évident, et en minimiser les effets pervers. Et donc, une réflexion sur l'aide serait forcément une réflexion assez complexe. Les critiques autour de l'aide sont encore assez récurrentes, certains voyant dans l'aide une forme de domination, une forme de stratégie pour maintenir la dépendance de ces pays qui en reçoivent vis-à-vis de l'Union européenne. D'autres critiques qui sont plutôt néolibérales, qui disent que finalement l'aide n'a pour effet que d'engendrer une bureaucratie inefficace dans les pays qui en reçoivent, qui génère la corruption, qui maintient au pouvoir des dirigeants inefficaces, qui ne sont pas des démocrates, etc. Donc évidemment, il y a beaucoup de critiques qu'on peut formuler sur l'aide, mais moi je préfère voir qu'il y a aussi quelques aspects positifs sur lesquels il faut bâtir, parce que n'oublions pas que s'il y a des conséquences ou des effets qui viennent du donateur, il y en a aussi beaucoup du point de vue des pays qui en reçoivent. Parce que l'exemple que je peux donner, une des erreurs manifestes que fait souvent l'Union européenne, c'est qu'ils considèrent justement l'efficacité de leur aide sous le prisme du niveau de décaissement des pays. Lorsqu'un pays décaisse assez considérablement l'aide, on pense que les choses marchent. On se rend moins compte de l'efficacité ou de l'impact sur le terrain dans un certain nombre de secteurs donnés.
On va en reparler, cher Diaye. Damien Elie, quand vous travaillez pour le CDPM, alors c'est pas une organisation non gouvernementale, c'est pas vraiment un centre de recherche non plus, vous travaillez sur ces questions du développement. L'aide, l'efficacité de l'aide, ça fait partie des problématiques posées par l'aide au développement. Il y a aussi une vraie question, c'est que l'Union européenne, elle a des valeurs, et elle se sert de l'aide au développement pour promouvoir ses valeurs. Et puis, elle a également des intérêts qu'elle essaye de sauvegarder, des intérêts économiques, stratégiques. Est-ce que tout ça, c'est compatible? Est-ce que tout ça, ça peut fonctionner ensemble?
C'est effectivement un grand débat qui est ressorti, notamment l'année dernière, lors de la négociation de la nouvelle stratégie globale de l'Union européenne. Et là aussi, je crois qu'il faut regarder les choses un petit peu en détail. Mais ce qui est très clair, nous, ce qu'on observe depuis 30 ans, c'est que la dimension politique de la coopération au développement, qui a été très longtemps occultée, on a pris l'aide ou la coopération comme une question technique qui n'était pas politique, on l'a laissé aux ingénieurs, on l'a laissé aux spécialistes. Cette dimension politique maintenant devient de plus en plus évidente. Et dans le cadre de l'Union européenne, depuis notamment le traité de Lisbonne, la question de l'alignement entre les objectifs diplomatiques, les objectifs politiques et les actions de coopération est devenue absolument cruciale. Et un exemple très frappant de cette nouvelle synergie et de cette nouvelle exigence et cette nouvelle conscience, c'est le rôle accru des délégations de l'Union européenne dans les pays partenaires. Et là, vous avez, si vous voulez, une représentation à la fois politique et technique de la coopération, et c'est là que tout se joue dans la qualité du dialogue qui va être développé tant avec les autorités qu'avec les sociétés des pays en développement.
Parmi ces sujets très politiques, très concrets qu'on a pu voir émerger et qui ont été liés de plus en plus à l'aide au développement, c'est pas une surprise, hein, depuis 2015, c'est la régulation des migrations en échange d'une aide au développement. Charles Gorens, c'est quelque chose que vous constatez, les Européens qui se retrouvent face à des milliers de personnes venues chercher une vie meilleure en Europe et qui cherchent à conclure des pactes migratoires avec les pays africains, sur le modèle de ce qui a été fait avec la Turquie.
Ce que vous qualifiez de modèle de ce qui a été fait avec la Turquie n'est pas un modèle. C'est la honte de l'Union européenne d'avoir conclu cet accord. Moi, ce que je veux mettre en avant, c'est une définition claire de la politique de développement qui soit partagée par tous. Et j'espère que le consensus européen de développement qui est en voie d'être négocié entre le Parlement européen, la Commission et le Conseil, pourra au moins s'entendre sur une définition de l'aide au développement, de la politique de développement. Pour moi, c'est promouvoir la dignité en éradiquant la pauvreté. Je crois que c'est autour de cette idée que devrait se centrer et s'organiser l'aide au développement. Pour moi, c'est du partenariat. Pour moi, c'est un message de l'Union européenne représentant des valeurs, de tendre la main à d'autres qui veulent partager la même expérience. Et je vois qu'en Afrique, ils sont nombreux au plan national et au plan régional de s'inspirer du modèle européen. Et je crois que c'est dans cette voie que nous devons tendre. Les accords ACP ont été une bonne plateforme pour organiser à la fois la coopération politique, la coopération technique et finalement l'éradication de la pauvreté. Si vous voyez ce que nous faisons en Afrique notamment, c'est fait de façon beaucoup moins désintéressée. La politique d'aide non liée est pratiquement devenu l'un des principes d'action de l'Union européenne. En tout cas, c'est beaucoup moins désintéressé que d'aucuns veulent le faire croire. Regardez ce que fait la Chine. Elle n'a pas du tout la conditionnalité de l'Union européenne. Et ça, c'est un vrai problème. Quand la Chine fait un prêt concessionnel, elle dit à un dirigeant africain, voilà, je te donne 1 milliard, tu ne rembourses rien, mais en revanche, tu me donnes des droits d'exploitation de tes mines. Des terres rares, par exemple des minéraux rares, et voilà, je crois que les Africains se font rouler dans la farine.
On en reparlera de cette multiplication des donateurs, des donneurs qui n'ont pas forcément effectivement une conditionnalité dans l'aide, qui lie pas ça à un respect des droits de l'homme, mais qui, ça pose d'autres problèmes. On en reparlera avec Cher Diaye. J'aimerais qu'on remette l'accent sur ce contrôle des migrations, parce que c'est quand même un problème pour le développement. Le Mali vient de signer avec l'Union européenne un accord de ce genre et c'est ce qui apparaît le plus clairement politiquement aujourd'hui. Écoutez ce qu'en dit Michael Siegel de l'ONG Oxfam. Il s'inquiète, lui, de la signature d'accords de ce type.
Le Mali a été le premier pays à signer un accord à hauteur de 145 millions d'euros avec l'Union européenne qui vise à lutter contre la migration irrégulière et favoriser le retour des migrants maliens depuis l'Europe. Concrètement, il y a plusieurs volets. Donc, il y a des initiatives pour aider les jeunes au travail, le renforcement des capacités des services de sécurité maliens et une meilleure collaboration donc pour lutter contre les réseaux de trafiquants d'êtres humains et améliorer le contrôle des frontières. Mais en fait, nous, notre inquiétude se porte sur un dispositif particulier qui prévoit, je cite, que des fonctionnaires maliens se rendent dans les pays membres de l'Union européenne pour aider à déterminer l'identité des migrants afin d'accélérer leur retour. Donc c'est un dispositif qui, au lieu de lutter contre la pauvreté, cherche à favoriser le retour des migrants dans leur pays d'origine. On constate encore que l'Union européenne se décharge de sa responsabilité d'accueil et de protection des migrants et des réfugiés et fait peser le poids de leur accueil sur des pays tiers dits sûrs, alors que beaucoup sont des pays, des régimes autoritaires ou des zones de conflit. Ce cadre, en fait, ça s'apparente à un régime de sanctions collectives où les pays, en fait, récalcitrants se verront pénalisés par une réduction, un arrêt de leur aide au développement ou de leurs avantages commerciaux.
Michael Siegel d'Oxfam avec Maria Afonso. Qu'est-ce qu'on en pense au Sénégal, Cher Diaye, de ces accords qui lient aide au développement et contrôle des migrations?
Oui, alors, et je suis absolument d'accord avec cette analyse que je viens d'entendre. Encore une fois, on a là la preuve que l'Union européenne, malheureusement, est restée dans ce paradigme assez fermé où elle a tendance à mettre en place ses politiques et ses stratégies vis-à-vis de l'Afrique et d'autres pays sur la base de ses propres peurs et ses frustrations, sur la base non pas d'une approche assez ouverte et assez offensive, mais elle est tout le temps sur la défensive. Et le fait de vouloir conclure ce type d'accord, conditionné bien entendu à une certaine forme d'aide au développement, et encore, je pense, une erreur commise par l'Union européenne. Vous savez que si on fait la trajectoire relativement longue de l'évolution des relations entre l'Europe et l'Afrique, on a eu dans le passé, juste après les indépendances, un modèle qu'on pouvait appeler l'Europe en Afrique, parce que l'Europe était déjà là pendant longtemps, et même après les indépendances, elle est restée et elle a gardé un certain nombre de leviers sur les commandes du développement et de la réalité économique. Un peu plus tard, après les années 1975, lorsqu'on commençait justement les préférences commerciales sous les conventions successives de Lomé, on a vu une Europe qui a tenté d'avoir une stratégie pour l'Afrique. Vous voyez, on était sur l'Europe avec une première stratégie d'une Europe en Afrique. Ensuite, l'Europe a basculé vers une stratégie sur l'Afrique. Et après 2006, j'ai entendu Manuel Barroso dire que l'Europe devait maintenant, après avoir constaté les effets pervers de ses politiques, après avoir constaté un certain nombre d'échecs, devait maintenant se donner une politique avec l'Afrique. C'était dans le slogan assez beau, mais faire une politique avec l'Afrique, c'est pas élaborer depuis Bruxelles un certain nombre de principes en défense avec ce qu'on considère comme être comme une sorte d'invasion des barbares ou des Africains qui iraient à l'est de l'Europe et qui chercheraient à se protéger de ça. ou qui mettrait en place des politiques de développement pour contrer l'avancée des pays émergents sur le continent. Toutes ces deux stratégies sont des stratégies défensives. Une Europe plus ouverte, une Europe plus intelligente comprendrait que c'est dans un partenariat plus ouvert, plus responsable que pourrait se bâtir et déjà dissiper le malentendu qui existe aujourd'hui de fait entre elle-même et les pays ACP ou l'Afrique en particulier, et bâtir quelque chose de plus solide et de plus positif. Et je crois qu'aujourd'hui, en raisonnant avec ce type d'accord, de ce type d'analyse sur les migrations, ça ne tempère pas ou ça ne met pas en confiance les peuples africains. Bien entendu, comme je l'ai dit tout à l'heure, si on pointe cette responsabilité au niveau des dirigeants, un certain nombre de dirigeants, ils trouveront certainement leur compte, mais les peuples africains seront laissés en rade. Une approche qui consiste à freiner les migrations n'est pas une bonne approche. Une Europe plus offensive, qui comprendrait mieux les besoins des Africains en matière de développement, parce qu'aujourd'hui, ce qui est constant, c'est que les Africains n'ont plus envie d'exporter leurs matières premières en Europe. Ils ont envie de créer les capacités productives sur le continent africain pour générer de la richesse et créer des emplois. Si l'Europe le comprend et se met au niveau des Africains pour bâtir un espace de coprospérité, des partenariats gagnant-gagnant, investir en Afrique pour gagner quelque chose, bien entendu, mais aussi que le continent gagne, elle aurait plus d'impact, je pense, sur les migrations, parce que les jeunes Africains qui trouveraient du travail et de la dignité chez eux ne penseraient plus à partir, parce que personne ne veut juste partir pour le plaisir de le faire. Ils y vont parce qu'ils pensent qu'ils gagnent quelque chose, mais s'ils le gagnent chez eux, personne ne partirait. Je pense que cette approche
on a bien compris, cher Dieng. Cette idée, justement, d'un échange entre immigration, contrôle de l'immigration et investissement dans les pays africains, vous n'êtes pas les seuls, hein, Charles Gorens, Cher Dieng ou encore Michael Siegel, à trouver que c'est une mauvaise idée. La presse néerlandaise également. Nous sommes en ligne avec nos amis de Courrier International, aujourd'hui avec Judith Sinij, qui est rédactrice Royaume-Uni, Irlande et Pays-Bas au journal. Bonjour Judith.
Bonjour Juliette.
Ouais, pour la presse, hein, ces investissements en échange d'efforts pour juguler les migrations, c'est une mauvaise idée.
Oui, absolument, Juliette. Il y a un article paru dans NRC Handelsblad, un quotidien néerlandais qui est donc aussi publié sur le site du Courrier International, qui parle des dangers du pacte euro-africain, donc les dangers du partenariat de l'Union européenne avec certains pays en Afrique. Donc la Commission européenne demande à certains pays où transitent beaucoup de migrants ou d'où viennent beaucoup de migrants de lutter davantage contre ce flux de migrants, ou en tout cas contre la migration clandestine et le trafic d'êtres humains aussi. Par exemple, l'Union leur demande de mieux contrôler leurs frontières et en échange, l'UE leur promet une aide financière au développement et des investissements commerciaux et dans certains cas aussi une libéralisation des visas. Donc il s'agit de la Jordanie et du Liban, mais aussi de l'Éthiopie, le Niger, le Nigeria, le Sénégal et le Mali surtout. Le 11 novembre, l'Union européenne a signé déjà le premier accord de ce genre avec le Liban. Et donc NRC Handelsblad dit que grosso modo, il y a trois problèmes dans ce type de système. Premièrement, c'est un système trop punitif à l'égard des pays africains parce que ceux qui ne coopèrent pas ou qui n'arrivent pas à réduire le flux de migrants risquent donc de perdre l'aide au développement européenne dont ils ont besoin. Le deuxième danger, c'est qu'avec ce système, l'Union européenne risque de récompenser en quelque sorte des régimes non démocratiques ou corrompus. Le journal NRC Handelsblad rappelle que dans certains pays africains corrompus, il y a même des fonctionnaires qui tirent profit du trafic d'êtres humains. Il y a une espèce de connivence des fois entre les trafiquants et les autorités. Et le troisième danger de ce partenariat entre l'Union européenne et certains pays africains est le suivant. L'Union européenne pourrait être soumise à des chantages. Certains pays pourraient dire à l'Union européenne, écoutez, si vous ne nous donnez pas des aides financières, nous ne pourrons rien faire contre la migration clandestine. Donc, poser la coopération entre la migration comme condition ferme à l'aide au développement, en tout cas, poser la coopération pour la lutte contre cette migration comme une condition ferme à l'aide au développement, c'est une mauvaise idée, selon ce journal.
Judith Sinij de Courrier International, nos amis de Courrier qu'on retrouve en kiosque, bien sûr, mais aussi sur Internet, courrierinternational.com. On marque une pause sur RFI, la radio de l'Europe et la radio du monde, le temps de prendre les dernières nouvelles de l'actualité.
Appelez-nous, exprimez-vous.
Cruzamento da Europa.
Raskrucha Europei.
Stavrodromi tis Evropis.
Treffpunkt Europa.
The hub of Europe.
Carrefour de l'Europe. Juliette Rocheval, Guillaume Meunier.
Bonjour, bienvenue si vous nous rejoignez. Carrefour de l'Europe, deuxième partie consacrée aujourd'hui à l'aide européenne au développement, ses objectifs, ses limites aussi, avec nos invités, Cher Dieye, directeur de l'Endacacid à Dakar au Sénégal, l'eurodéputé Charles Gorens qui suit particulièrement les questions de développement, Damien Hilly de l'ECDPM et puis en ligne avec nous René Lefort, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes l'un des plus grands spécialistes de la Corne de l'Afrique, de l'Éthiopie notamment. Vous êtes l'auteur d'Éthiopie, la révolution hérétique chez Maspero. Pour l'Europe, jusqu'ici, l'aide au développement était vue comme levier d'action en faveur des droits de l'homme. Et l'Éthiopie en a particulièrement bénéficié. Le pays reçoit une aide massive des donateurs. Et avec cette aide, avec les investissements privés, la politique de développement initiée au début des années 2000 a porté ses fruits. Enfin, a porté ses fruits avec un point d'interrogation quand même, René Lefort.
Oui, enfin, elle a porté ses fruits, c'est-à-dire qu'il est incontestable que les progrès économiques de l'Éthiopie sont tout à fait remarquables. La croissance officielle pendant ces 12 dernières années a été de l'ordre de 10% par an. Ce chiffre est à prendre avec la plus grande précaution parce qu'il est très très exagéré. En fait, la croissance a dû se situer autour de 6 à 7%, ce qui est quand même considérable. L'agriculture officiellement, la production agricole a été officiellement multipliée par 4 en 12 ans, ce qui est absolument impossible. En réalité, elle a été à peu près multipliée par 2, ce qui est tout aussi remarquable. Donc c'est vrai que la croissance économique de l'Éthiopie justifie le fait que les donateurs l'applaudissent sans interruption, quoi.
Pourquoi est-ce que les donateurs s'y sont tellement investis dans ce pays ?
Ben, je crois qu'ils s'y sont beaucoup investis pour deux raisons. La première, c'est que lorsque le nouveau régime a pris le pouvoir et pendant les 10 premières années, l'Éthiopie était toujours aussi pauvre. En particulier en 2001-2002, il y a eu de nouveau une pénurie alimentaire extrêmement importante. Donc l'Éthiopie, qui a maintenant 100 millions d'habitants, est quand même un terrain d'action évident pour les donateurs. Et la deuxième raison, c'est que comparé à beaucoup d'autres pays, l'utilisation par l'Éthiopie de l'aide internationale, l'aide internationale, tout confondu, c'est à peu près pas loin de 4 milliards de dollars par an. 4 milards de dollars par an, c'est actuellement 6 à 7% du PIB éthiopien, donc c'est important. Donc comme cette aide est relativement bien utilisée, les donateurs ont été évidemment encouragés à la maintenir. Et puis la troisième raison qui joue quand même, c'est que l'Éthiopie évidemment a une position stratégique dans une corne de l'Afrique qui est vraiment tout à fait déstabilisée. Et donc on tient à ce que la stabilité de l'Éthiopie demeure.
Le succès économique éthiopien, il connaît quand même une limite hein, aujourd'hui, c'est que l'industrialisation ne s'est pas faite, ou en tout cas pas complètement.
Alors il y a trois grandes limites à ce modèle. Le premier, c'est qu'il n'a pas touché des plus pauvres, ou très peu, marginalement. Il les a touchés par l'éducation ou la santé, mais il ne les a pas touchés sur le plan économique. Il y a actuellement une très grosse sécheresse en Éthiopie, et il y a à peu près 20% de la population, 20 millions de personnes qui ont besoin d'une aide alimentaire. Ces 20%, c'est ceux qu'on retrouve depuis les 50 dernières années en Éthiopie en cas d'aléa climatique. Donc, on peut dire qu'il y a une espèce de résidu de pauvreté que le développement, le mode de développement actuel n'a pas entamé. La deuxième limite du modèle éthiopien, c'est que normalement, le développement de l'agriculture devait amener le développement de l'industrie. C'est-à-dire que les agriculteurs devaient produire des surplus que ensuite l'industrie aurait utilisé, et ces agriculteurs enrichis par la vente de leurs surplus seraient devenus des clients de cette industrie. Et en fait, ça n'a pas marché parce qu'au jour d'aujourd'hui, la contribution de l'industrie dans le PIB est à peu près du même ordre de grandeur qu'elle était du temps de Haïlé Sélassié 50 ans auparavant. Et la troisième difficulté qu'ils ont maintenant, c'est que le développement a été impulsé et financé essentiellement par la puissance publique. Les moyens de la puissance publique maintenant ne sont pas à la mesure des investissements nécessaires. Et donc l'Éthiopie a absolument besoin que des investisseurs, notamment étrangers, viennent en Éthiopie. Or, si on regarde les investissements étrangers directs en Éthiopie, ils sont en moyenne la moitié de ce qu'ils sont dans l'Afrique subsaharienne rapportée à la population. Donc, il y a toujours ce problème d'investissement qui demeure, et il est effectivement probablement encore plus aigu après les troubles qui ont eu lieu cette dernière année.
Avec un pays qui est sous état d'urgence.
Avec un pays qui est sous état d'urgence depuis le mois d'octobre. Et juste avant la proclamation de l'état d'urgence, il y a des entreprises étrangères, des fermes étrangères qui ont été détruites, qui ont été brûlées, et ça a évidemment refroidi les investisseurs. Et ensuite, la troisième difficulté qu'ils ont, celle-là, elle est vraiment systémique, et elle est peut-être la plus grave, c'est que les Éthiopiens, les dirigeants éthiopiens veulent toujours avoir un contrôle absolu de tout, y compris de l'économie. On est toujours dans ce qu'on appelle une commande d'économie. Et en même temps, ils veulent absolument une économie de marché pour attirer ces investisseurs. Alors là, il y a une contradiction, quoi. On ne peut pas vouloir le beurre, l'argent du beurre et le sourire de la crémière. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vouloir d'un côté faire venir des investisseurs étrangers et de l'autre, continuer à se situer dans une commande d'économie. Ça, c'est un réel problème qui renvoie au système politique éthiopien.
Merci René Lefort. Charles Dorens, c'est un peu un cas d'école, hein, ce cas éthiopien. On a la multiplicité des donateurs, Union européenne, Chine, États-Unis. On a ce problème d'investissement. On a le problème in fine d'investir dans un pays avec un régime autoritaire. Et jusqu'à quel point on peut soutenir ce type de régime politique ?
Il ne s'agit pas de soutenir un régime politique. Il s'agit de faire une évaluation générale de la situation. L'instabilité dissuade tout investisseur. Ce qu'il faut faire, c'est tabler sur des exemples qui marchent. En Afrique, il y a 10 économies qui ont décollé, qui ont des croissances voisines de 10-12%. Le Ghana a même atteint 15% il y a quelques années. Donc il y a des formules qui marchent. Ce qui ne marche pas, c'est la gouvernance. Ce qui ne marche pas non plus, c'est la répartition des richesses. Donc il faut que ces systèmes se dotent aussi de moyens de redistribution. Alors il y a, et tout est lié à la gouvernance et à la volonté politique. Si vous avez une fiscalité juste, vous avez un moyen de redistribution à travers un budget contrôlé par un parlement directement élu. Et là où il n'y a pas de démocratie, là où la société civile n'a pas à voix au chapitre, vous avez ces difficultés, et notamment en Éthiopie. Si vous avez une absence totale d'accès à la sécurité sociale, ça ne marche pas. Pourtant, vous avez des formules en Afrique qui marchent. Au Rwanda, par exemple, vous avez 90% de la population qui a accès à la sécurité sociale. C'est remarquable. Donc, il n'y a pas de fatalité dans tout ça. C'est faisable. Il y a des formules aussi qui marchent en Éthiopie. J'étais en visite en Éthiopie il y a 2 ans. Et j'étais assez surpris de voir que le système de santé est assez bien établi. On a notamment eu l'occasion de vérifier, de contrôler sur place le développement du système de lutte contre le sida, qui est remarquable. Donc, appuyé sur un système assez bien organisé, pratiquement étendu à l'échelle entière de l'Éthiopie, c'est pas mal. Donc, si vous avez ces structures, des formules qui viennent de l'extérieur, en coopération avec le ministère de la Santé, peuvent faire bouger les lignes. Alors, que peut faire l'Union européenne ? Mais songer à une conditionnalité intelligente qui permet d'accompagner le développement à l'intérieur des pays avec lesquels elle coopère. Ce n'est pas nous qui allons développer ces pays, c'est eux qui se développent eux-mêmes. Nous pouvons partager des expériences, nous pouvons partager des enseignements, mais c'est à eux de faire l'essentiel. Alors voilà, dans la ligne qui se dégage, c'est que continuons à donner une chance à l'Éthiopie, essayons de la convaincre qu'elle adopte les mesures susceptibles d'attirer les investissements étrangers, faisons de notre côté aussi preuve de cohérence au niveau des politiques. Le Parlement européen a voté une loi sur les minéraux de conflit. C'est une des mesures qui tend à moraliser un peu le commerce international et qui permet de pallier aux insuffisances en matière de contrôle et de transparence des flux commerciaux et des flux financiers. Voilà des mesures qui, petit à petit, s'alignent pour converger vers une coopération digne de ce nom, vers une relation entre les pays en développement et les pays industrialisés, qui soit à même de considérer de plus en plus ses partenaires comme des partenaires fiables. Donc voilà, les responsabilités sont très largement partagées. Permettez-moi d'ajouter un mot sur la cohérence des politiques. De ce point de vue, l'Union européenne fait des efforts. J'étais moi-même rapporteur du Parlement européen sur la cohérence des politiques. J'ai constaté que tout a été dit, mais pas encore par tout le monde. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est faire en sorte que, à la Commission de Bruxelles, tout comme dans nos États membres, qui sont tous des partenaires des pays africains, il faudrait prévoir des instances d'arbitrage. Quand il y a un conflit entre deux départements de la Commission, il ne suffit pas de faire une réunion interservice, mais ce serait la tâche du président de la Commission de trancher, tout comme ce serait la tâche du Premier ministre de trancher au niveau national lorsqu'il y a des conflits entre deux ministères. Donc il faut que les décisions soient prises. Rendons nos systèmes de gouvernance plus efficace.
Damien Elie, le CDPM travaille justement un peu avec les deux côtés de l'aide, du côté des donateurs, du côté des récipiendaires. Est-ce que vous diriez qu'il faut effectivement renforcer les institutions africaines d'un côté, mais aussi avoir une cohérence politique et prendre les décisions côté européen ?
Tout le dilemme, c'est de, en partant du constat que l'enrichissement des économies et des sociétés dépend au final quand même de politiques publiques robustes et durables, le dilemme, c'est de soutenir des politiques publiques et des institutions lorsque nous avons des doutes sur le respect d'un certain nombre de normes qui sont considérées comme étant des normes universelles par les Européens et on parlait tout à l'heure d'un modèle européen, etc. Donc on est constamment dans ce dilemme-là lorsqu'on a affaire à des violations de droits de l'homme ou à des régimes autoritaires. Et la question, au final, c'est pas nécessairement de se focaliser sur le régime en disant « nous allons soutenir un régime », mais c'est travailler avec des institutions d'État et une population. Et je crois qu'une des faiblesses du système de la coopération au développement de l'Union européenne, c'est principalement de travailler et de faire des accords essentiellement avec des institutions d'État ou publiques, très peu les collectivités territoriales, et ça c'est un manque, c'est un vide dans le dispositif, puisque finalement les collectivités locales sont celles qui sont le plus proches des populations, et souvent passer par ces institutions d'État crée une sorte de filtre. Et c'est là aussi qu'on se retrouve avec des limites en termes de gouvernance. Au niveau des institutions de l'Union européenne, effectivement, la Commission est souvent présentée comme un 29e bailleur de fonds, en plus des États. Mais je crois qu'il faut rendre et remettre la responsabilité là où elle est, c'est-à-dire chez les États membres. Pour reprendre la question de la migration qui a été mentionnée tout à l'heure, ces accords sur les migrations avec les pays, notamment du Sahel ou de la Corne de l'Afrique, sont motivés essentiellement par un agenda politique interne en Europe qui est lié à l'incapacité de nos dirigeants à trouver des solutions collectives au choc migratoire créé par la crise syrienne. Donc c'est en réformant ou en transformant ou en ajustant les politiques de développement sous un paradigme migratoire, on est en train de changer le paradigme, on répond en fait à une question politique interne. Et je crois qu'on manque complètement toute la dimension du dialogue avec les sociétés africaines. Et c'est, je pense aussi, une priorité pour l'avenir, c'est de sortir d'une logique bureaucratique uniquement et d'ouvrir la question de la coopération aux sociétés. Les sociétés africaines et les sociétés européennes ont énormément à échanger. Elles échangent déjà, mais elles sont souvent à la marge ou pas assez écoutés dans ces accords entre institutions ou entre bureaucraties. Donc c'est toute une question de création de confiance, une nouvelle dynamique de confiance qui doit se lancer. Sinon, on reste dans des logiques post-coloniales qui ne disent plus leur nom. On parle effectivement de partenariat, mais en pratique, ces bureaucraties, finalement, ne donnent pas les résultats qu'elles sont censées
espérer
promouvoir dans les stratégies. Voilà.
Cher Dieye, vous partagez ce constat. Il faut que l'aide atteigne moins les institutions et plus les citoyens.
Oui, absolument. Je partage cette analyse et vous me permettrez simplement de revenir sur le cas de l'Éthiopie pour montrer effectivement l'effet positif de l'aide lorsque elle est conçue sous ce qui doit être sa seule vocation. c'est-à-dire d'être un levier pour appuyer ou accompagner les stratégies de développement des pays africains. Je crois qu'on ne le dira pas jamais assez, quelqu'un l'a dit tout à l'heure d'ailleurs, et je suis absolument d'accord, on ne peut pas se substituer aux pays africains pour faire le développement à leur place. L'Éthiopie, ce qu'elle a fait, c'est pas seulement que l'aide a permis de transformer ses structures, mais l'aide a aidé l'Éthiopie à, après avoir mis justement en place ses propres politiques, des politiques relativement heureuses dans un certain nombre de domaines, des politiques commerciales et des politiques économiques. L'aide a permis de transformer et de se doter des infrastructures qui lui manquaient, de mettre en place un certain nombre de mesures d'accompagnement de ces secteurs de production pour permettre de basculer justement dans le cadre de ces efforts sur la transformation structurelle, de passer d'un état d'exportation de ces matières premières à des efforts un peu plus constants, un peu plus visibles en matière de transformation. Et on l'a dit tout à l'heure, l'Éthiopie, sur au moins 10 d'années, a fait des taux de croissance assez honorables, de 2 chiffres, et cela, en partie, est venu des exportations de produits transformés, au moins sur une première transformation aussi, de produits qui initialement étaient transformés sous forme de matières premières et exportés simplement. Et ces efforts sur le développement de chaînes de valeur, notamment sur la filière bétail, viande, peau, cuir, etc., jusqu'à faire des chaussures et autres, sur le café, le thé et d'autres filières où l'Éthiopie est aujourd'hui en train de se positionner non seulement sur le marché international, utilisant ses avantages comparatifs bien entendu, mais également sur le marché régional et le marché africain. C'est aussi là, à mon avis, que doit se situer le cœur du débat. Comment aider les pays africains à développer leur capacité productive et qu'une aide qui n'est pas liée seule peut permettre de le faire. Parce qu'une aide liée qui oblige l'État à regarder dans le sens voulu par le pays donateur, je ne pense pas que ça soit quelque chose qui soit de nature à aider les pays. Et le deuxième élément qui a été, je pense, abordé par le député européen, c'est lorsqu'il a parlé de la cohérence des politiques. C'est une question qui m'intéresse et qui nous intéresse ici beaucoup en Afrique, notamment en Afrique de l'Ouest, parce que c'est une problématique qui est au cœur de nos relations actuelles avec l'Union européenne, notamment dans le cadre de l'accord de partenariat économique. Revenant sur cet accord, je crois que le député en sait quelque chose. L'Union européenne, pendant longtemps, a tenté de s'aménager dans l'accord de partenariat économique avec les pays ACP, un espace où elle aurait le droit de sanctionner un pays qui, du point de vue de ses propres jugements, aurait violé les droits de l'homme ou se serait rendu coupable de corruption, et réagir également dans le cadre de ce même accord pour essayer de contrer la présence ou l'influence, ou on va dire l'entrée sur le marché africain des pays émergents en imposant une clause de la nation la plus favorisée ou d'autres types de considérations juste pour réagir ou se mettre sur la défensive vis-à-vis de l'Inde, de la Chine et du Brésil, quitte à compliquer la tâche aux pays africains, cela ne me paraît pas également être quelque chose de très cohérent. Ce qui est constant, je crois, c'est que si l'Europe veut changer d'approche, sa stratégie de développement par l'aide doit être gérée comme l'aide doit être, c'est-à-dire délier des affaires commerciales, laisser les partenariats se nouer sur le plan commercial et économique à travers des partenariats de gagnant-gagnant, comme on aime bien à le dire. On sait, bien entendu, je le reconnais qu'il est toujours plus difficile de le faire que de le dire, mais au moins on sait ce que ça recouvre, ce concept. Et les questions d'aide et des conditionnalités politiques liées à l'aide, elles ne doivent pas, à mon avis, être discutées dans des espaces où on discute d'économie. Elles peuvent être faites ailleurs, parce qu'il faut aussi que les États recevant de l'aide assument leur part de responsabilité. Et l'exemple de l'Éthiopie, comme d'autres pays africains, montre que lorsque l'aide est utilisée efficacement, ça peut aider à transformer les structures économiques d'un pays. Et d'ailleurs, au-delà de l'économie, on a 2 autres cas, des exemples assez parlants d'ailleurs sur le continent africain, qui sont sur les 4 pays les moins avancés au monde, qui sont sortis de la catégorie. Les 2 sont des pays africains qui n'ont presque pas beaucoup de ressources, à part le Botswana qui a le diamant, mais le Botswana et le Cap-Vert ont réussi à sortir de la catégorie des pays les moins avancés parce que ces pays ont su utiliser l'aide au développement reçue, couplée à de très bonnes politiques, à une très très bonne gouvernance de leurs ressources, à une lutte farouche contre la corruption, à une bonne redevabilité des dirigeants vis-à-vis des peuples pour booster leur économie et créer les conditions de leur transformation. Et les peuples de ces pays-là profitent de l'aide, profitent des politiques publiques qui sont mises en place. Je pense que c'est un ensemble d'éléments comme ça mis ensemble qui peut un peu changer la donne sur le continent africain.
Très rapidement, avant de conclure, cher Diaye, est-ce que le projet européen de lier l'aide publique à des investissements privés, du coup, ça vous semble une bonne idée, en quelques mots ?
Oui, si on considère que l'investissement privé, ça veut dire aussi investissement des Africains eux-mêmes chez eux. Si on considère investissement privé seulement par des grandes multinationales européennes qui arriveraient sur le continent africain et qui ne voient le partenariat public-privé que sous le prisme d'une grande multinationale qui investit dans le pays, en considérant que le secteur privé national ne peut être considéré que comme un faire-valoir, cela n'aura pas d'effet à long terme. Si par contre, cette aide gérée efficacement par les gouvernements africains permet d'utiliser ou de renforcer un secteur privé local qui pourrait à un certain niveau rentrer en joint venture avec le secteur privé international et créer les conditions de la transformation et de développement des capacités productives locales, cela me paraît être une très très bonne chose. Mais je suis absolument d'accord avec ce qu'on a dit tout à l'heure. Le développement ne sera pas fait par des investissements privés étrangers qui arriveraient même massivement sur le continent africain si ici même un secteur privé local fort, très bien organisé et qui soit un acteur moteur du développement n'est pas mis en place, accompagné par les États, avec de bonnes politiques qui les protègent dans les domaines où ils ont besoin de protection, mais qui leur ouvrent aussi les marchés régionaux et internationaux en levant les obstacles, en levant les entraves et en leur donnant les appuis financiers nécessaires. Cela, effectivement, pourrait faire de l'aide un bon levier pour le secteur privé local et même international aussi, bien sûr.
Charles Gorens, vous avez l'impression qu'on prend la bonne direction. On en est au tout début des négociations pour revoir cette stratégie européenne du développement. Est-ce que pour le moment, oui, on prend le bon chemin ?
Eh bien, sous l'empire de la même législation, il y a des pays qui progressent et d'autres qui ne progressent pas. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas revoir l'ensemble des relations qui nous unissent à l'Afrique. Le représentant du Sénégal vient d'évoquer le Cap-Vert comme un exemple. Je ne suis pas tout à fait innocent au développement du Cap-Vert. J'ai moi-même accompagné pendant des années le développement en tant que premier bailleur de fonds. Donc tout n'a pas été faux. Donc tout ce que je vous ai dit, c'est aussi inspiré en partie par l'expérience que j'ai fait avec ces pays. Moi, ce que je veux dire, c'est qu'au niveau de nos relations avec l'Afrique, il faut reconnaître que l'Afrique, dans son ouverture de son économie sur le monde, elle doit pouvoir bénéficier de quelques mesures de protection. Et ces mesures de protection devraient être susceptibles de permettre l'éclosion de secteurs économiques, donc servant les intérêts des populations locales, comme vient de le dire le représentant du Sénégal. Là, je suis tout à fait d'accord avec lui. Or, les relations commerciales entre les ACP et l'Union européenne sont basées sur l'article 24 du GATT, et ce n'est pas l'Union européenne qui l'a imposé, mais c'est l'Organisation mondiale du commerce qui oblige les pays à rentrer dans le rang. Et ce n'est pas l'Europe qui a mis fin aux préférences généralisées, mais c'est sous la pression, notamment de pays émergents, que ça a été fait. Alors moi, ce que je veux dire, c'est qu'un haut degré d'ouverture de ces économies peut avoir un effet pervers sur le développement économique. Donc, plutôt que de les obliger à ouvrir le marché pour 85% des produits, si on limitait ça à 75%, on aurait déjà résolu un grand nombre de problèmes. Donc, je crois que c'est une question de réflexion de fond, mais c'est aussi une question de dosage des mesures qui sont disponibles pour l'instant. Encore une fois, il n'y a pas de fatalité là-dedans. On pourrait mieux faire. Moi, je ne vais pas voter tous les accords de partenariat économique parce que je ne vois pas les degrés de protection suffisants respectés dans ces accords.
Bien entendu, je partage une bonne partie de ce qu'il vient de dire, monsieur le député. Simplement, je suis bien obligé de juste dire un mot sur ce qu'il dit sur l'article 24 du GATT de l'OMC, qui, semble-t-il, aurait quasiment obligé les deux parties à aller dans un accord tel que d'ailleurs l'Europe le propose. Mais je veux simplement dire que cette clause de l'article 24 du GATT n'est en rien un alibi soutenable pour justifier les accords de partenariat économique. Parce que l'Europe a encore une panoplie de possibilités pour ne pas pousser à ces accords des pays ou des régions qui n'en veulent pas. Et la preuve manifeste du caractère néfaste de ces accords, c'est que même pour ceux qui en voulaient à un moment donné, aujourd'hui vous considérez une région comme l'Afrique de l'Ouest, sur les 15 pays de la CEDEAO, deux pays n'ont pas signé l'accord de partenariat économique, la Gambie et le Nigeria. Et le Nigeria est le pays qui est le plus peuplé de l'Afrique de l'Ouest et qui représente 56% de son PIB. Or, si le Nigeria, comme ils l'ont déjà dit et redit, ne veut pas de l'accord de partenariat économique et refuse de le mettre en œuvre, c'est toute l'intégration régionale qui vole en éclats. Voilà une preuve de l'incohérence de la politique européenne. L'Europe veut son accord, et l'impose à des régions qui n'en peuvent pas, ce n'est pas parce qu'on ne le veut pas, mais l'accord n'est pas approprié et l'article 24 du GATT n'est pas un alibi soutenable. Ça, on l'a déjà démontré, y compris à Bruxelles, et aucun des négociateurs de Bruxelles à l'époque n'était en mesure d'opposer des arguments sérieux de ce point de vue-là. Donc, je pense qu'il faut qu'on... J'ai bien aimé son raisonnement, qui est un raisonnement mesuré. Je pense qu'il faut aussi aider à trouver des solutions politiques à ce blocage qui est devant nous, parce que les régions ACP, en Afrique en tout cas, il y a beaucoup de pays qui refuseront la mise en œuvre de l'accord de partenariat économique, et ça nous mettra directement devant un enjeu très important de désintégration du continent et de tous les efforts qui ont été consentis à ce stade. Et j'appelle vraiment monsieur le député à poursuivre la réflexion dans ce sens pour aider les pays à trouver une solution heureuse qui permettrait de renforcer les relations Europe-Afrique et d'aller dans le bon sens.
Merci, cher Diaye. Merci à tous nos invités. Carrefour de l'Europe continue sur Internet et sur les réseaux sociaux. Vous pouvez retrouver cette émission, la réécouter, en savoir un peu plus sur nos invités sur RFI.fr. À la réalisation, Guillaume Munier. Carrefour de l'Europe, rendez-vous dimanche prochain à 18h10, heure de Paris. Tout de suite, c'est le journal sur RFI.